Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer. J'aimerais commencer par deux questions. Quel est le désir le plus cher de votre cœur? Ou un peu formulé autrement, quelle est la chose la plus importante que vous espérez voir un jour se réaliser? Peut-être est-ce fonder une famille, avoir une entreprise, gravir les échelons dans la vie professionnelle et sociale, mais ça peut aussi être la conversion d'un enfant ou d'un parent, ou une guérison d'un proche. Ce matin, je voudrais vous parler d'un homme qui espérait simplement voir. Alors, j'ai retrouvé un chant qui était très à la mode lorsque j'avais 15 ans. Vous pouvez chanter si vous le connaissez.
Par ta longue barbe, tu défies le calendrier. Dans tes yeux, où la vie s'attarde, on devine ton humilité. Un jour dans le temple, tu venais de faire tes prières. Tout à coup, ton regard contemple un enfant broyé de lumière. Maintenant tu t'en vas dans la paix du matin, en laissant derrière toi le chemin. Fragile, dans tes bras, que tu trembles un peu, et les larmes devenues faciles, doucement vont mouiller tes yeux. Siméon, Dieu tient sa promesse par celui qui nous a donné. Elle dort pleine de sagesse, n'aie pas peur de la réveiller. Dans la paix du matin, en laissant derrière toi le chemin.
Nous savons très peu de choses sur Siméon. Tout ce que nous savons de lui nous est rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 25 à 35. Et nous lisons, « Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les hommes. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Siméon avait un désir très cher à son cœur, un désir qui surpassait tout le reste. Il désirait ardemment voir un jour le Christ du Seigneur, le Messie promis de l'Éternel. Ce désir était toute sa vie. Il attendait l'aboutissement de l'histoire d'Israël qui donnerait un sens à toute l'histoire de l'humanité. Son nom signifie « qui a été entendu » ou « Dieu a entendu » ou encore « qui est exaucé ». Nous ne savons rien d'autre sur ses origines, sa famille, les derniers moments de sa vie. Il est simplement serviteur, comme il le dit lui-même. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. En somme, c'est un serviteur qui s'efface devant le maître, comme Jean-Baptiste. Nous pourrions presque dire que Siméon a vécu uniquement pour bénir Jésus et ses parents. Siméon occupe pourtant une place toute spéciale dans le plan de Dieu. Il se situe à la jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il vient après les anges qui ont annoncé la venue de Jésus à Marie. Il est le premier à toucher Jésus. Il est le premier à bénir Jésus. Avec lui, l'histoire du salut franchit une étape décisive. Nous passons au salut de toutes les nations. Siméon a vu l'enfant Jésus. Il l'a pris dans ses bras et l'a contemplé avec admiration. Le désir le plus cher de son cœur a été comblé. Mes yeux ont vu ton salut. Gloire d'Israël et lumière pour éclairer les nations. Alors, quel est le contexte de cette rencontre? Depuis le dernier livre de l'Ancien Testament à la naissance de Jésus, il s'est écoulé environ 400 années. Un temps très long de silence, sans prophète et sans écrit. Une période où il ne se passait pas grand-chose en apparence. C'était même une période où les sacrificateurs étaient nommés par le gouverneur romain. Je ne l'avais jamais entendu, je l'ai découvert. Ce qui a donné des religieux pas très recommandables comme Anne, qui a été nommé sacrificateur par Quirinius en l'an 7. Et Caïphe par la suite. C'était aussi l'époque où la cour du temple, réservée aux étrangers afin qu'ils entendent la parole de Dieu, était occupée par les vendeurs d'animaux pour les sacrifices et les changeurs de monnaie. Nous le lisons en Jean 2, 14 à 16. Mais malgré cela, les Juifs continuaient les rendez-vous au temple, les sacrifices avec les rites religieux, les présentations des premiers-nés. Les parents de Jésus étaient pauvres, mais faisaient partie de ces personnes respectueuses de Dieu. Siméon aussi était resté fidèle, malgré la semblante pauvreté spirituelle. J'ai envie de dire félicitations à tous ceux qui ont persévéré malgré tous ces dysfonctionnements. Alors, qui est Siméon ? Le dictionnaire biblique dit pas grand-chose, il dit simplement « homme droit et pieux ». Il était un habitué du temple et sûrement un ami de Anne, la prophétesse. Siméon avait quelque chose de plus que tous les croyants de l'Ancien Testament. Eux aussi avaient attendu la consolation d'Israël. Mais Siméon a reçu une promesse unique, une révélation spéciale. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Averti de quoi ? Qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Siméon occupe donc une place unique et toute spéciale dans le plan de Dieu, que personne avant lui n'avait jamais occupé. Dieu a longtemps préparé son peuple à la venue du Sauveur, mais Dieu a spécialement préparé son serviteur Siméon à voir l'arrivée de ce Sauveur promis. Pendant toute sa vie, Siméon était tourné vers cette promesse, vers cette espérance. C'était le désir le plus cher de son cœur. Et enfin, Siméon se qualifie de serviteur, tout simplement. Quelles sont les qualités de Siméon ? La première, c'est une foi nourrie par la parole de Dieu. Siméon est un homme qui voulait vivre selon la parole de Dieu. Il avait une grande espérance. Il connaissait les promesses messianiques de l'Ancien Testament. Il savait que Dieu avait promis un sauveur dès la Genèse, chapitre 3, verset 15, une descendance de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Il savait que cette promesse viendrait à travers la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il savait que le Messie viendrait de la lignée de Juda, de la maison de David, selon la promesse. Siméon connaissait les prophéties d'Ésaïe. Il attendait la consolation d'Israël, nous dit le verset 25. Cette consolation d'Israël avait été annoncée par le prophète Ésaïe dans le chapitre 40, verset 1. Nous le lisons souvent à Noël. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Le Messie devait venir pour la consolation du peuple de l'Alliance, par le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Siméon attendait cette consolation. Il y croyait. Il l'espérait de tout son cœur parce que l'Esprit-Saint était en lui. Nous ne savons pas quelle était la durée de cette attente. Siméon me fait penser à Marie. Dieu pouvait lui parler. Il avait sa porte qui était ouverte et une relation intime avec son Dieu. Il avait reçu quelque chose de Dieu et il le préservait soigneusement comme un trésor. Siméon me fait aussi penser aux vierges sages, car il avait de l'huile dans sa lampe. Troisième qualité de Siméon, patience. Lorsque nous recevons une promesse ou une révélation de Dieu, nous avons toujours à lutter contre le doute lorsque la réponse se fait attendre. Et des pensées comme « tu as dû rêver » ou « c'était les propres pensées » ou encore « c'était ton imagination » viennent troubler notre confiance. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut des confirmations par la parole, par un ami des fois, par un renouvellement de la révélation. Chers amis, Siméon était un homme de la même nature que nous, probablement avec des doutes, mais aussi avec des certitudes. Nous ne connaissons pas ses doutes, mais nous lisons ses certitudes, sa confiance, sa ténacité. Il attendait. Il n'était pas absent lorsque Marie et Joseph sont venus au temple et sa patience fut récompensée. Troisième qualité, fidélité. Pour parler de la fidélité de Siméon, il faut revenir dans le contexte de cette période troublée que nous avons évoquée plus haut. Plus de prophètes, le business des sacrifices installés dans la cour du temple et des personnes comme Anne à la tête du temple. Nous aurions pu lire, par exemple, que Siméon n'allait plus au temple vu la corruption des serviteurs, ou encore que Dieu ne répondait pas à ses prières. Rien de tout cela. Fidèlement, il va au temple et il ne loupe pas le rendez-vous avec Dieu et son roi. Combien d'hommes et de femmes fidèles ont persévéré pendant des périodes difficiles et troublées depuis la venue de Jésus et que nous pourrions citer ce matin en exemple. Quatrième qualité, humilité. Mettons-nous un peu à la place de Siméon devant un tel exaucement de prière. Rendez-vous compte, il était le premier pasteur de Jésus le Sauveur. Il aurait pu se mettre en avant sa foi, sa spiritualité, sa relation avec son Dieu, sa confiance au Dieu d'Israël. Mais non, pas de buzz, pas de publicité. De nos jours, on pourrait dire pas de clip vidéo sur YouTube. Simplement inversé. Maintenant tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Voilà son humilité. Et enfin, il est prophète de l'Éternel. Il prononce des prophéties en quatre petites phrases. Dieu a destiné cet enfant pour causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Des personnes qui ont adhéré et d'autres qui ont combattu Jésus, nous le lisons dans l'Évangile. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. L'Évangile est plein de réponses. Il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, quatrième, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Siméon aurait pu s'arrêter à la troisième prophétie. Pourquoi faire de la peine à cette jeune maman qui vient juste de mettre au monde son fils premier-né ? Pour qui elle a reçu des belles paroles de l'ange Gabriel en Luc 1, 32. Il sera grand, a dit l'ange. On l'appellera fils de Dieu, du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Siméon est un prophète courageux. Il délivre le message en entier. Il n'édulcore pas la parole de Dieu. Ceux qui rejetteront le Messie et qui l'enverront sur la croix, leurs pensées mauvaises seront révélées au grand jour. Et Marie sera transpercée en plein cœur. Ce sera une douleur terrible pour cette maman de voir son fils crucifié. Marie a eu quelques années pour méditer cette parole et s'y préparer. Ce n'est pas toujours facile d'être la servante de Dieu. Il faut renoncer à soi-même pour que le plan rédempteur de Dieu s'accomplisse. Mais ce que Siméon ne dit pas, c'est que Marie sera consolée quand Jésus ressuscitera. Elle fera partie de la première église de Jérusalem avec les disciples fidèles de Jésus. Elle verra même les frères de Jésus se joindre aux 11. Cette même consolation, frères et sœurs, sera proclamée au monde entier et elle est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, quelle est la récompense de Siméon ? Pour répondre à cette question, je me permets de paraphraser Matthieu 26, 13. Il est dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera aussi ce que Siméon a fait et l'on se souviendra de lui. Imaginez son émotion. Il prend l'enfant dans ses bras. C'est le jour le plus important de toute sa vie. Imaginez sa joie. Il la laisse exploser maintenant. Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Mes yeux ont vu ton salut. La tension est relâchée. L'attente est comblée. Alors, je vais vous laisser une parole où j'ai oublié de noter l'auteur, mais d'après les paroles, il semblerait que c'est une main féminine. Il est dit à ce sujet, « Siméon ne voit pas seulement un bébé, il voit le salut de Dieu. Un jour, les petits pieds de ce bébé marcheront sur les routes d'Israël. Un jour, ses petites mains grandiront pour guérir les malades. Un jour, sa petite bouche se développera pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce bébé grandira pour un jour s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Il est venu accomplir le pardon, la réconciliation avec Dieu, donner la consolation à son peuple. Siméon est rempli de joie, mes yeux ont vu son salut, ton salut. Le désir le plus cher de son cœur s'est accompli. Il est comblé. Il peut maintenant mourir en paix. » Oui, frères et sœurs, Siméon est un maillon de la chaîne du plan de Dieu pour l'humanité. Ce maillon est indispensable pour ne pas rompre la continuité de cette chaîne. Il n'est plus question de Siméon après cet événement. Il est parti en paix. Mais nous le verrons un jour à côté de Jésus dans sa gloire. Pour conclure, pouvons-nous apprendre quelque chose de Siméon? J'ai quelques petites questions que je me suis posées. Est-ce que j'aurais été présent ce jour-là? Est-ce que j'aurais eu la patience d'attendre? Comment aurais-je réagi? Aurais-je donné toute la prophétie? Le Saint-Esprit peut-il me pousser pour aller au temple? Ou me conduire vers une personne? Ou m'engager dans le combat spirituel, dans la prière? Nous évoquons quelquefois la petite taille de notre Église ou encore le manque de jeunesse. Siméon et Anne formaient l'Église fidèle de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ils étaient peu nombreux et pas très jeunes. La vraie question pour chacun de nous est, quelle est ta foi? Où est ta patience? Où est ta fidélité? Où est ton humilité? Où est ta persévérance? Est-ce que nous voulons être des Siméons? Nous avons tous été un jour un maillon de la chaîne pour une personne qui se tourne vers Dieu. Continuons à être des maillons, sans forcément voir les résultats. Continuons dans cette voie du Seigneur en faisant encore fructifier nos talents que nous avons reçus. La Bible nous dit que nous avons tous reçu des talents. Et la récompense sera celle de Siméon, l'approbation de Dieu. Alors pour terminer, je vous donne un deuxième texte dont je n'ai pas non plus relevé l'auteur, mais ce n'est pas grave. Chers frères et sœurs, quel est le désir le plus cher de votre cœur? Quelle est votre plus grande espérance? Depuis le jour où Siméon a tenu l'enfant dans ses bras, le plan rédempteur de Dieu a progressé. Jésus est mort et ressuscité pour notre salut. Il est monté au ciel pour rassembler son Église et diriger l'histoire vers son but. Il a déversé son Saint-Esprit sur l'Église le jour de la Pentecôte pour communiquer richement son salut. Il règne aujourd'hui et il reviendra un jour dans sa gloire. Avons-nous le grand désir de voir sa lumière éclairer nos vies et briller dans ce monde? Brûlons-nous d'espérance de voir un jour le Seigneur Jésus dans toute sa gloire? La chose la plus importante de toutes n'est-elle pas d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous donne les yeux de la foi pour voir en espérance le Christ du Seigneur, le Messie de l'Éternel. Nous sommes réunis pour célébrer celui qui nous procure le salut, la consolation et la paix. Si nous voyons notre Sauveur avec les yeux de la foi, nous sommes bénis. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes prêts à mourir en paix et rencontrer notre Dieu en attendant la pleine réalisation de son plan rédempteur. J'ai trouvé que c'était une très belle conclusion. Alors vivons donc comme Siméon. Soyons fidèles dans l'attente. Soyons à l'écoute de l'Esprit. Recherchons Dieu constamment. Exerçons nos yeux à le percevoir, à le trouver. Recevons Jésus comme on reçoit un ami. Prenons soin de ne pas l'abandonner, de ne pas nous laisser distraire, et que notre vie soit une louange à Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen.